France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir un entretien exceptionnel avec la chanteuse Juliette Gréco. En 1999, Ariel Buteau avait rencontré Juliette Gréco dans sa maison près de Senlis et avait recueilli ses souvenirs pour l'émission Mémoire retrouvée. Dans un climat de confiance, Juliette Gréco se livre sans fard et nous raconte son enfance, ses débuts et les grandes rencontres de sa vie. Voici la première partie de cet entretien enregistré le 2 juillet 1999.
Mémoire retrouvée. Juliette Gréco. Par Ariel Buteau. Réalisation Jean-Charles Guérin.
Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est l'âge du. Ce n'est pas le meilleur du temps. Je sais, je l'ai vécu. J'ai dansé sur quelques volcans, troué quelques souliers, avec mes rêves, mes tourments, j'ai fait mes oreillers. Et je dis encore aujourd'hui, je suis comme eux, je suis. Je me souviens des jours, quand les jours s'en allaient, comme un rêve à l'envers. Je me souviens des nuits, quand les oiseaux parlaient, sous la plume très verte. Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est tout petit. Moi, je n'ai jamais eu le temps d'avoir peur de la nuit. Ma maison est un soleil noir au centre de ma tête. J'y fais l'amour avec l'espoir et l'âme des poètes. Les poètes sont des enfants importants. Je me souviens des jours quand les jours s'en allaient comme un rêve. Je me souviens des nuits quand les oiseaux parlaient sous la plume très belle. Moi, monsieur, quand j'avais 20 ans, j'étais déjà perdu. Perdu l'âge entre les temps, superbement perdu. Moi, je danse avec des morts, plus vifs que des vivants. Et nous inventons l'âge d'or au seuil des matins blancs. J'ai toujours chevillé au corps le même soleil et le vent. Non, monsieur, je n'ai pas 20 ans.
Quand on lit votre autobiographie, Juliette Gréco, Jujube, On a devant les yeux une vie magnifique, faite de rencontres avec des gens exceptionnels, avec des gens d'une richesse intellectuelle, humaine, affective, extraordinaire. Il y a cette histoire d'amour aussi gigantesque et si longue avec le public, qui continue aujourd'hui. On en a encore eu la preuve il y a peu de temps au Théâtre de l'Odéon. C'était un grand, grand triomphe. Et pourtant, tout ça commence dans une grande solitude. En tout cas, quand on vous lit, on a le sentiment que c'était loin d'être gagné d'avance.
C'est pas gagné du tout. Ça continue de ne pas être gagné. Il y a des instants magnifiques et de plus en plus nombreux. Mais il faut toujours recommencer. Rien n'est gagné d'avance. D'abord parce que on sait que les gens aiment certaines chansons. On le sait au bout de tant d'années. On sait qu'ils les attendent, on sait qu'ils les aiment. Mais il y a celles qu'ils ne connaissent pas. Tout est à recommencer toujours. C'est un métier... De fil de feriste, c'est un métier très dangereux. Quand on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et une bonne dose de folie.
Mais vous dites, tout est à recommencer, mais avant de recommencer, il faut déjà commencer.
Oui.
Et vous, petite fille, si j'en crois votre jujube, petite fille, bah, vous n'étiez pas très très causante, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah oui, je voulais pas parler, mais...
Vous aviez des choses à dire pourtant.
Je ne sais pas si j'avais des choses. Non, on n'a pas grand-chose à dire quand même. Il y a tellement de gens qui ont des choses à dire tellement plus intéressantes. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écouter. J'ai une sœur aînée qui a presque 3 ans de plus que moi, pas tout à fait. Et j'avais délégué la parole à ma sœur. Je me disais, elle fait ça très bien. Elle travaille super à l'école. Elle est intelligente, elle est brillante. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on me foute la paix et qu'on me laisse tranquille dans mon coin, à rêver, à jouer à ma manière et à imaginer. Voilà. Donc, et à aimer mon grand-père.
Donc, et ça marchait ? On vous laissait vraiment tranquille ?
Oui, on me foutait la paix. Oui. Ma grand-mère disait toujours. Mais j'ai entendu ma grand-mère dire cette petite est complètement idiote. Ce qui n'était pas faux, sans doute, ce qui ne doit pas être faux, mais ça m'est resté ancré quand même. Ça empêche d'avoir la tête enflée. Quand les gens disent, oui, Gréco est intelligente et tout, et moi je sais que je ne suis pas intelligente.
ça n'engage que vous, Julia Gréco.
Moi je le sais, je sais que j'ai une vie à moi, que j'ai un choix, que je sais que j'ai un très grand courage, ça j'en suis sûre. Mais j'ai un courage qui est dû à la passion, c'est tout.
Si mon air vous dit quelque chose, vous auriez tort de vous gêner. Je ne la fais pas à la pose, je suis la femme, on me connaît. Bandeau plazo, crinière folle, dites quel front vous rendrait fou. J'ai l'art de toutes les écoles, j'ai des âmes pour tous les goûts. Cueillez la fleur de mes visages, buvez ma bouche et non ma voix, et n'en cherchez pas davantage, nulle ni vie claire, pas même moi. Nos armes ne sont pas égales, pour que je vous tende la main. Vous n'êtes que de naïfs mâles, je suis l'éther, nel féminin. Mon but se perd dans les étoiles, c'est moi qui suis la grande Isis. Nul ne m'a retroussé mon voile, ne songez qu'à mes oasis. Cueillez la fleur de mes visages, buvez ma bouche et non ma voix, et n'en cherchez pas davantage. Je suis la femme, on me connaît.
Avant d'avoir la passion du chant, vous vous êtes quand même beaucoup cherché, enfin comme tout le monde d'ailleurs. C'est
pas la passion du chant.
De chaque être humain. Vous n'avez pas la passion du chant, vous avez la passion des mots, vous.
Oui, j'ai la passion du contact humain. J'ai la passion de la séduction. J'ai la passion Je voudrais qu'on m'aime. Voilà.
On vous aime ?
C'est un moteur terrible.
On vous aime ?
Eh bien, il y en a, ouais.
Ben, avant d'en arriver à la chanson, il y a eu, disons, un parcours un petit peu en danse. Vous vous êtes cherché, et puis tout le monde se cherche, c'est normal. Vous avez même fait de la danse à une époque.
Oui.
Vous avez même rencontré Lifar, je crois.
Oui, qui était un monstre épouvantable. Il avait son béret enfoncé sur la tête. Et c'était un tyran absolu. Et quand il arrivait, nous, rats...
Vous étiez petit rat de l'opéra,
j'ai cru. Oui, j'étais dans la classe rose, j'étais dans la première classe de Mademoiselle Sébron. Et j'étais toute petite, hein, j'avais 8 ans et 9 ans. Quoi. Et quand M. Lifar passait, quand il montait l'escalier, il fallait qu'on se mette contre, il fallait qu'on arrête de bouger, qu'on se colle contre le mur et qu'on fasse une révérence profonde, la tête baissée, sans le regarder. Je m'aperçois aujourd'hui que c'était quand même assez monstrueux. Assez monstrueux. Cela dit, ça ne me gênait pas dans la mesure où je trouvais l'affaire un peu absurde. Parce que j'avais un grand sens de l'absurdité. J'avais la tête bizarrement faite quand j'étais petite. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Quoi qu'il en soit, ça me semblait absurde. Donc je faisais ça en me disant, bon, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Mais pourquoi ? Une question comme ça, pourquoi ?
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous mettait sur des rails, par exemple la danse, vous preniez autre chose que ce qu'on cherchait à vous inculquer. On cherchait à vous apprendre le maintien, la danse, etc. Et vous commenciez à comprendre l'absurdité.
Oui, tout à fait.
Vous appreniez autre chose ?
Ah, j'ai toujours appris autre chose, mais bien sûr, il y a tout à apprendre de toute façon, tout est là. Le tout, c'est de le cueillir. Cela dit, moi, quand je dansais, je parlais. J'avais trouvé un substitut magnifique. Je disais tout avec mes mains, avec mon corps.
Ça n'a pas changé.
Non, c'est une chose qui est restée très, très, très fortement ancrée. Mais en même temps, j'ai eu le plaisir de la découverte du goût, du goût des mots dans la bouche, comme des bonbons, ou comme des bonbons empoisonnés quelquefois. Mais le goût de la chose, le parfum des mots, la sensualité des mots, et puis la reporter.
Je suis la honte de la ville, je suis celle qu'on ne reçoit nulle part. Les filles comme moi, les inutiles, il vaut mieux les tenir à l'écart. On fait semblant de ne pas me connaître parce que j'ai eu plusieurs amants. Mais il y a des yeux derrière les fenêtres pour surveiller tous mes mouvements. Je suis la terreur des familles, le scandale de tous les gens bien. Je fais trembler les vieilles filles, je fais rêver les collégiens. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste se donnent le bras, elles ont les accostes, tandis que moi, lorsque je passe dans la rue, y'a personne qui me salue, personne qui m'aime ou qui me voit. Les gens bien me montrent du doigt. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste se donnent le bras, elles ont les accostes, moi pas. On a dit que le fils du notaire s'était tué par amour pour moi. Au fond, je sais bien que s'il a fait ça, c'était pour embêter son père. Seulement voilà, tous ils m'en veulent comme si j'avais quelque chose à voir. Et les voilà qui me font la gueule parce que je m'habille tout en noir. Non, je ne mets pas de rouge à lèvres. J'ai des chemises et des bas de soie. Tant pis pour tous ceux qui en crèvent. Chaque soir, y a un homme chez moi. Les dames de la poste s'en vont par trois, en quittant la poste à 6h03. Les dames de la poste, dans l'air lit froid, rêvent de timbre poste, tandis que moi, je fais des rêves de jeunesse. Je fais des rêves de ta caresse. J'aime la vie, j'aime l'amour, et je sais qu'on trouvera un jour, parmi les timbres postes et les mandats, toujours fidèle au poste, à 6h03, les dames de la poste, les bras en croix, mortes dans leur poste, et moi pas.
Il y a une période qui probablement a beaucoup contribué à transformer Jujube en Juliette Gréco, c'est la guerre. Ça a été très dur pour beaucoup de gens, pour vous aussi.
Ouais.
Et puis ça a été en même temps, vous avez appris énormément de choses. Peut-être que vous ne seriez jamais devenue Juliette Gréco sans cette horrible période.
J'ai appris ce qu'étaient les hommes, d'abord. Enfin, ce qu'étaient quelques hommes. Pour moi, un homme, c'était mon grand-père, donc c'était une chose idéale, belle, une espèce de rocher sur lequel on pouvait jouer, dans lequel on pouvait se cacher, qui savait tout, qui avait réponse à tout, qui sentait bon, et qui était beau, et protecteur. Donc pour moi, un homme, c'était ça. Et puis j'étais catapultée quasiment de couvent à la prison de Fresnes. Et dans cette prison de Fresnes, j'étais, les Allemands spécialement, mais la Gestapo française avait le goût du mélange des genres. Donc je sortais du couvent, on m'a mis avec 3 prostituées. Comme c'est une toute petite cellule, c'était la cellule 322 à Fresnes, dans le quartier des femmes. J'étais pas du tout une femme, moi. J'avais 15 ans et quelques. À cette époque-là, 15 ans, c'était pas grand-chose. C'était 8 ans. Parce qu'une fille de 8 ans, elle vous balance des trucs tout à fait logiques et vrais. Un enfant de 8 ans, ça connaît plein de choses. Moi, je connaissais finalement peu de choses. Parce que le couvent, ça n'a jamais aidé à la connaissance de la vie. À part quelques religieuses câlines. Cela dit, moi j'aimais bien le couvent parce que j'allais souvent à la chapelle. Parce que j'avais la paix. Et ça sentait bon, c'était beau, il y avait des fleurs et il y avait une qualité de silence magnifique.
Comme ici, quoi. On est dans la maison du curé. Enfin,
ouais.
Un curé qui est mort au XVIIIe siècle, mais quand même, on est chez lui, là.
Ouais.
Difficile de l'oublier.
Je ne suis pas sûre qu'il soit tellement mort.
Vous voyez, hein.
Non.
Il vous accueille.
Mais il y a une espèce de douceur. Ouais. Il y a une très grande douceur, il y a une très grande simplicité dans cette maison, qui est bourrée d'objets, qui est bourrée de souvenirs, qui est le réceptacle d'années de vie, quoi. Mais, attends, je parle des objets. Mais il y a une espèce de douceur, une espèce de protection, de calme.
Vous avez toujours cherché ça, hein ?
Oui. J'aime bien le silence. J'aime bien la sérénité, j'aime bien le silence. J'aurais dû faire bouddhiste. au lieu de faire anticlérical, j'aurais dû faire bouddhiste.
Oh, il n'est pas trop tard, hein ?
Si.
Si, il est trop tard.
Si, le Dalai Lama a dit à Jean-Claude Carrière que je disais finalement, moi j'aimerais bien la religion, hein, et lui a dit, écoutez, il est trop tard.
C'était sans appel alors.
Je suis faite pour te lèvre et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? ce qui m'est arrivé. Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?
Gilles Gréco, on va pas s'étendre sur cette période qui est dure,
sur cette
qui est noire
de notre enfance, si, on peut dire tout à fait que c'est...
Première gifle, quand même, de Gréco à un homme.
Oui.
Hein?
Ah bon, oui.
Ça, on peut le raconter, quand même, c'est magnifique.
Ah ouais? Non, c'est juste. C'est juste. C'était un interrogatoire à la Gestapo. C'est un type que j'avais repéré, d'ailleurs, dans le métro. Je le voyais souvent. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, ce type? Je vois tout le temps le même mec. Un immense type brun, avec un visage un peu pâle. Hein. Il avait un costume bleu, foncé, bleu comme ça. Et tout d'un coup, ce mec, je le retrouve dans la voiture qui avait coincé ma sœur, place de la Madeleine. C'est pas moi qui cherchais, c'était ma sœur. Mais comme j'aime ma sœur, et que je savais qu'elle transportait des choses qu'elle ne m'avait pas dites, mais qu'elle transportait des choses dans son sac à main, je me suis dit, je vais prendre ce sac à main. Et j'ai traversé absolument comme une flèche, comme une fusée, j'ai traversé la place de la Madeleine, et j'ai tapé contre les vitres de la Citroën. Et les mecs ont dû dire, qu'est-ce que c'est que cette folle? Et ma sœur a dû dire, c'est ma sœur. Donc ils ont ouvert la porte, et hop, je me suis retrouvé sur les genoux d'un monsieur, parce que la voiture était pleine, et ça m'a déplu fortement. Et puis j'ai mis mon sac à côté de celui de ma sœur, parce que je n'ai pas perdu le nord du tout. Et quand nous sommes sortis, j'ai pris le sac de ma sœur, et ma sœur m'a regardé, mais avec un regard absolument indéfinissable. Je n'ai jamais vu un regard pareil. J'ai pris son sac. Elle a pris le mien. Moi, on m'a mise... on l'a mise directement à l'interrogatoire. On sait ce que ça veut dire, aujourd'hui. Mais il faudrait le rappeler quand même, de temps en temps, que la torture existe, et que ça existe encore, et que ça existe toujours. Et moi, on m'a collé dans un bureau avec une bonne femme, c'était l'heure du déjeuner, une faim canine, elle était en train de bouffer une pomme. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce sac? Et puis j'ai fait celle qui avait mal au ventre. J'ai mal au ventre, au cabinet. J'ai fait l'andouille et... Au bout d'un moment, la fille qui était là avec sa pomme et sa machine à écrire a dit à un soldat, vous l'amenez, il m'a amené, il était armé bien sûr, il m'a amené, et c'était une maison qui appartenait au Rothschild, le siège de la Gestapo, avenue Foch. Et il y avait, c'était sublime, c'était comme un trône de bois, très beau, avec des mûchas, je pense que ça devait être des mûchas dans en vitraux, ça derrière.
Vous nous parlez des toilettes, là?
Oui, les chiottes, oui. Et... très bien droit, très luxueux. Et le mec laisse la porte ouverte. Comment, porte ouverte? S'il vous plaît, fermez la porte.
Je suis une jeune couventine.
Je suis une jeune fille convenable, fermez la porte. Le type a fermé la porte, crac, 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 j'ai déchiré tous les papiers qu'il y avait dans le sac à main de ma sœur. Il y en avait un paquet, il y avait plein de papiers. J'ai remonté ma manche, puis j'ai bien enfoncé dans le trou des cabinets. Puis j'ai tiré la chasse, et puis j'ai rebaissé ma manche. Et je suis sortie libérée de cette chose. Et puis, Nous nous sommes retrouvés le lendemain sur les marches du perron. Elle et moi en assez mauvais état. Elle surtout en très 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 mauvais état, moi pas mal amochée. Parce que le monsieur, ce fameux monsieur qui avait ce costume bleu, m'avait posé des questions stupides et il m'avait dit « Vous vous appelez Gréco ?» Pas vrai du tout, vous vous appelez Grécovitch ou Gréco ? J'ai dit, écoutez, je m'appelle Juliette Gréco, c'est le nom de mon père. Et le mec a continué à me tenir un langage que je n'ai pas du tout supporté. Ce qui fait que comme j'ai un caractère épouvantable, je me suis soulevée et je lui ai flanqué une énorme paire de claques.
Oh là là.
Ça a un prix.
Eh oui.
Voilà, ça a eu un prix. Mais bon, je ne la regrette pas. Ni ça, ni le reste. Je ne regrette rien du tout. Rien. Enfin, c'est... Se dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, des centaines de gens subissent le même sort, je trouve que nous sommes en grave, grave régression.
Si la bête a bu et qu'elle est dans la rue, attention au coup perdu. Ça vient ni de la tête ni du cul. Si la bête a bu et qu'elle est dans la rue, attention au coup perdu. Qu'elle viole, qu'elle tue, n'est pas une surprise. Ce qui est plus troublant, c'est que son cœur sous sa chemise, de n'importe quelle couleur, rêve de posséder aussi. Du superflu, du superflu. Des médailles et des honneurs, des titres et des splendeurs, et si possible un siège où se décide après beaucoup de commentaires des actions de paix, des actions de guerre. Quand la bête est sobre, elle est sévère, comme les maîtres de cette terre, comme tous les maîtres de cette terre.
Vous ne vous êtes pas privé d'ailleurs pour le faire sentir lorsque vous avez été invité au Chili. Je crois que ça a été le seul beat de votre carrière. Pas d'applaudissements.
Ah bah un beat triomphal, ouais.
Oui. Un beat dont on est fier.
Oui, ouais. Très fier.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Oh, il s'est passé qu'il y avait une grande soirée qui avait été donnée pour les gradés et les gens importants de l'armée. Enfin, tout était armé de toute façon. Mais donc, tous les gens importants à Santiago. Et on m'avait invité à chanter. Je me suis beaucoup gratté avant d'y aller. Je me suis dit, non, pas y aller, pays pourri, c'est de la merde, va aller là. Hein. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais dis donc, mais tu es d'une lâcheté affreuse. Tu dis non parce que tu as peur. Alors tu vas y aller. Donc je me suis prise par la main et nous y sommes, elle et moi, allez. Et puis je suis arrivée et puis Gérard Joannès, qui lui était tout à fait convaincu d'y aller, j'ai même pas eu besoin de lui poser la question. On est allé, puis on a chanté, puis on a chanté des choses qui étaient anti-militaristes.
Par exemple?
Oh, du genre, mon fils chante le cimetière militaire ou des trucs comme ça, quoi. Et puis nous nous sommes retrouvés là-bas, Je suis entrée sous un tonnerre d'applaudissements et je suis ressortie dans un silence de mort. Mais de mort. Tout d'un coup, toutes ces dames qui avaient tellement de bagues qu'elles avaient du mal à applaudir, toutes ces femmes, tous ces hommes décorés comme des arbres de Noël, enfin, comme on peut être décoré dans une opérette. Il y avait ça aussi en Union soviétique. Ils sont très portés sur la quincaillerie. Et tout ça, tout d'un coup, paf, silence de mort. Et je suis sortie, j'ai une photo de ça d'ailleurs. Je suis sortie entre deux gendarmes, enfin entre deux policiers. Et on nous a, le lendemain, ramené manu militari à l'aéroport, avec confiscation de passeport et surveillance, voilà. J'étais assez fière. Dans la nuit, les gens des messageries avaient fait des petites photos de moi, comme ça, qu'ils avaient mis comme des guirlandes à côté des kiosques à journaux. Et il y avait une presse pour moi, enfin pour moi, pour ce que je représentais, surtout. Bien sûr. Et j'étais fière, j'étais heureuse. Puis je suis retournée après, puis j'ai fait le même coup.
Un jour, le diable vint sur Terre. Le diable vint sur Terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait organisé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable, il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci.
Ça va ! Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous, dangereux jeux de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se muent en cachette, en anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète la barre. Dans un décor de 1900, ça fait des morts l'inanition, et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu, que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et même l'on ne chante plus, dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous, et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens, et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va. Eh ben, à part ça, ça va.
J'ai l'impression que vous êtes devenue une figure de Saint-Germain-des-Prés. À l'époque où Saint-Germain-des-Prés...
À l'insu de mon plein gré.
Oui, c'est-à-dire, vous ne chantiez pas encore.
Non.
Vous ne faisiez finalement pas grand-chose encore.
Non.
Et vous étiez une figure de ce quartier.
Oui.
Comment vous l'expliquez, ça?
Pas.
Tout le monde vous connaissait, en
oui.
fait.
Oui, c'est Gréco.
Mais qu'est-ce que quoi? Vous aviez vous
êtes... Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Une drôle de tête, oui, j'avais une drôle de tête. J'avais des cheveux comme Napoléon au Pont d'Arcole... Comme Bonaparte, plus exactement au Pont d'Arcole. J'avais des yeux de crétoise, maquillés au crayon noir, comme ça, très grands. J'étais pâle. J'étais habillée avec les vêtements dont ne voulaient plus les garçons qui habitaient ma pension de famille. Donc j'étais assez exotique. J'avais des pantalons roulés. D'où est venue cette mode-là?
Vous avez lancé la mode?
Oui. Oui. Lancé la mode des pantalons roulés, j'ai lancé la mode du noir pour les femmes, qui n'existait pas du tout. J'ai lancé la mode du chandail et du pantalon, sans vouloir quoi que ce soit. J'ai lancé la mode de l'œil de biche, J'ai lancé la mode de cette coiffure qui perdure, d'ailleurs. Cette coiffure où les filles aujourd'hui sont ravissantes avec de grands cheveux plats et des franges, où elles sont belles comme des amours. Bien plus belles, incomparablement plus belles que j'ai jamais pu l'être. J'étais pas belle du tout, moi. J'étais bizarre. Et voilà. Ça s'est passé comme ça, quoi.
Puis vous aviez un don incroyable pour rencontrer des gens qui étaient totalement inconnus et qui sont devenus très très célèbres par la suite.
Oui.
Comme vous, finalement. Vous étiez une bande d'inconnus et...
Oui, on a été une bande d'inconnus. Et puis je me suis retrouvée avec des inconnus. J'ai surtout l'amour des autres. Ou la haine. Enfin, pas la haine, mais en tout cas le mépris. Mais quand c'est l'amour, c'est vraiment l'amour. Et je suis tombée en amour avec plein de gens. Je suis tombée en amour avec Prévert, je suis tombée en amour avec Cosma, je suis tombée en amour avec tous les gens que j'ai chantés. Et tout à coup est arrivé, pour la première fois, personne ne le connaissait. Et il était grand, il avait des yeux de loup affamé, des grands bras, une guitare au bout du bras droit, et il s'appelait Brel. Et j'ai entendu ce type, ma fille venait de naître, c'était donc en 53 ou 54, je ne sais plus. Je ne sais jamais, je n'ai pas le sens des dates. Et c'est vrai. Et tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que sans ça, je serais bien malheureuse. Mais il est arrivé, et j'ai écouté chanter cet homme, je me suis dit, mais c'est pas possible ce que j'entends, c'est pas vrai.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez. Lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout, faut pas jouer les riches, quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ses pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur... que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat,
bien j'ai oublié. Oui, ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Vous chantiez déjà vous-même à l'époque ?
Oui.
Oui.
J'étais un peu connue, comme je... Oui, j'avais un certain succès.
Parce que vous avez mis longtemps à vous y mettre à la chanson, hein.
C'était, non.
C'était vraiment pas une vocation chez vous.
Non, non, j'ai pas mis longtemps. Non, j'ai quand même commencé à chanter en 49.
Il a fallu vous pousser quand même, hein.
Ah, mais je voulais pas du tout.
Bah oui, c'est parce que c'est
parce
que
je disais. Je voulais pas. Non, non, je voulais pas. Bien sûr que non, je voulais pas. Mais je voulais pas parce que j'avais un respect fou pour les gens qui chantaient. Et j'imaginais que c'était très, très, très difficile et qu'il fallait des années et des années pour se permettre d'ouvrir la bouche et de chanter.
Et puis vous parliez toujours très peu, ce qui était quand même un handicap pour se mettre à chanter.
Non. C'est pas un handicap. Quand on se sert des mots des autres, ça va. Quand on est au service des autres, de ceux qu'on aime, c'est très très pratique, ça va.
C'est Boris Vian qui vous a rendu la parole ?
C'est Boris, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est la patience de Boris. C'est cette espèce d'amour doux, chaud. Cette caresse, comme ça, si légère, comme ça, dans le noir, sur son canapé, comme ça, chez lui, où il me prenait dans son grand bras. Il me parlait tout simplement. Il a fini par me parler tellement que sans me rendre compte, j'ai fini par répondre. Donc j'ai eu l'analyse la plus belle, la plus douce, la plus fleurissante qui soit.
Je suis snob, je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois d'urbain, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bad. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, Je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Si on va par là, si on parle d'analyse, vous êtes vanté d'avoir envoyé beaucoup, beaucoup de clients à Lacan à l'époque.
Non, pas beaucoup, mais quelques-uns, c'est pas ma faute. Hein.
Des amours déçus.
Oui, 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 les mecs, ils pensent que... Les mecs, ils pensaient que c'est... Que c'est... Que si on aime, l'autre vous aime. Mais j'ai toujours dit que non. Non.
C'est cruel, quand même.
Si être sincère est cruel, oui, c'est cruel. On ne peut pas dire je vous aime à quelqu'un qu'on n'aime pas. Pourquoi faire? C'est une perte de temps extraordinaire. Mieux vaut garder ses forces pour les gens qu'on aime.
Alors à l'époque, à Saint-Germain-des-Prés, dans cette famille de Saint-Germain-des-Prés, oui. Parce que vous la viviez quand même de cette façon-là, il y avait des gens extraordinaires. Il y avait Merleau-Ponty qui savait se mettre à la portée de la toute jeune fille que vous étiez. Il y avait Sartre, il y avait Beauvoir.
Il n'avait pas que des sentiments purs.
Ah bon? Il était un peu amoureux de vous, peut-être?
Ben oui, 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 il aimait
lui
bien
aussi.
Il aimait bien cette jeune fille.
Il n'a pas fini chez Lacan pour autant, quand
non,
même.
Bon, non, bon, non. Supérieurement intelligent. Mais cela dit, bon. Non, c'était. Mais ce qu'on disait comme un enfant. Ce qu'on disait comme un enfant. Il était adorable. Il était. Et c'était surtout. Tellement beau de pouvoir poser une question pour la petite sotte que j'étais. Et d'avoir une réponse.
Alors moi, je vais faire la petite sotte et je vais vous poser une question. Après tout, chacun son tour.
C'est bien votre droit.
Si je vous demande ce que c'est que l'existentialisme, qu'est-ce que vous allez me répondre?
L'existentialisme est une philosophie qui a été, à cause de mon physique et à cause de mon étrange notoriété, à laquelle je n'ai pas donné quelque crédit que ce soit, moi. A été vulgarisée d'une manière dommageable. Tout à coup, c'est devenu un objet de consommation et un objet de scandale. On disait d'une fille ou d'un garçon sale et habillé de noir, c'est un existentialiste. Bon. Tout ça, c'est une affaire qui a été entièrement construite par la presse, par une certaine presse. Et voilà. Pour le reste, l'existentialisme est une philosophie. L'existentialisme est une chose qui m'a aidée énormément. Ça a été pour moi un remplacement de mon père et de ma mère.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, jolie môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, jolie môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, jolie môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, jolie môme. Ta barrière de froufrou à faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente, et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. t'as qu'une rime au bonheur. Ah, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on effeuille monotone. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
On allait presque tous les soirs dans des endroits comme le bal nègre, la canne à sucre. On écoutait des musiques exotiques. On s'amusait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, j'ai fait mes universités de cette manière-là. Tout appris, moi, au bistrot.
Vous n'aviez aucun souci du lendemain, comme on dit aujourd'hui?
Je n'ai jamais cru à demain. Je ne comprends pas. C'est peut-être pour ça que je suis toujours vivante. Je n'ai jamais... Je ne fais jamais aucun projet.
Alors bon, à partir du moment où Juliette Gréco, il a bien fallu être un petit peu sérieuse parce que c'était...
Non.
Oh bah si, c'était bien d'être la muse de Saint-Germain-des-Prés, mais bon, Sartre a fini par obtenir gain de cause. Il vous a poussé sur scène, il vous a fait chanter et puis il a fait naître Gréco, d'une certaine façon.
Oui. J'avais déjà travaillé sur scène avec Michel Deray. Roger Vitrac était encore vivant et on avait monté Victor ou les enfants au pouvoir. Moi, je jouais le rôle d'une femme de 30 ans, ce qui me semblait ahurissant de vieillesse. Je n'arriverai jamais jusqu'à 30 ans. Bonjour les dégâts. Voilà, ça avait un succès d'estime tout à fait remarquable, devant très très peu de gens, mais des gens très bien, du genre Simone Signoret, Yves Montand, tous les Prévert, tous ces gens-là, quoi. Qui était venu soutenir les enfants que nous étions, qui était adorable avec nous.
Et vous aimez bien Prévert?
J'aime Prévert, d'amour, oui. Oui. Oui, parce que je crois qu'il est. Il est le poète le plus simple, le plus pur et le plus proche de l'enfance que je connaisse.
Donc quand vous avez franchi le pas, quand vous avez décidé de chanter, il a bien fallu trouver des textes.
Il a bien fallu trouver des textes. Cette espèce de diable infernal de Sartre m'a dit « Oh, Gréco !» Parce qu'entre-temps, après cette histoire de Victor et les enfants au pouvoir, la sœur de Moïse était venue nous voir. La sœur de Moïse étant l'héritière du bœuf sur le toit. Ce bœuf sur le toit où il y avait l'héritage de l'œil cacodilate, avec ce mur où tous les poètes et tous les surréalistes de l'époque avaient écrit quelque chose. C'était le rendez-vous de tous les surréalistes. C'était l'endroit le plus brûlant, le plus bouillant de Paris. C'était l'endroit où chantait Marianne Oswald. Voilà. Et donc, il y avait Cocteau Jeune, il y avait de Breton, il y avait bon, tous ces gens-là. Et puis ça avait fermé, parce que tous ces gens-là avaient déserté d'une manière ou d'une autre. Et elle cherchait, et Moïse était mort, et sa sœur cherchait une succession. Et elle avait vu ses enfants dissipés que nous étions, elle s'était dit, ils sont peut-être capables de faire ça. Donc nous avions fait ça, on avait accepté de le faire. Et moi, il n'était pas du tout question que je chante, moi j'avais appris des sketchs d'Alphonse Allais, avec un copain à moi qui s'appelait Zacharias. Il y avait une petite chanteuse américaine que personne ne connaissait, qui était très, 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 très mignonne. Elle était noire. Elle s'appelait Arsakit. Pas rien non plus. Donc, sont venus des gens comme Marlon Brando, qui sortait du Tramway nommé Désir et qui était tout jeune comédien.
Et qui était beau à se damner, non?
Ah, bon, d'une beauté monstrueuse. En fait, c'était monstrueux. Et en plus, il était d'autant plus beau qu'il avait une mobylette et qu'il me ramenait sur sa mobylette le soir à mon hôtel, ce qui était épatant.
Mon Dieu.
Ah oui, mais on se rendait compte de rien.
Vous avez dû vous faire des copines à l'époque, hein?
Il était amoureux d'Arsakit. Aussitôt qu'elle passait à côté de lui, et sa ravissante bouche à lui s'ouvrait pour laisser sortir un tombereau d'horreur sexuelle. Il était complètement fou d'elle. Il y avait de quoi, elle était géniale. Elle est toujours d'ailleurs. Puis voilà, c'était un creuset tout à fait étrange où des quantités de carrières formidables ont pris naissance. C'était très curieux.
Donc c'est là que vous avez chanté pour la première fois. Juliette Gréco au bœuf sur le toit.
Avec mes pieds nus, mon pantalon noir et un chandail noir que m'avait offert une maison de chandail.
Pieds nus par coquetterie ou parce que vous n'aviez pas de chaussures?
Pieds nus par coquetterie, my foot. pieds nus parce que je n'avais pas de sous pour m'acheter les chaussures. J'avais des sandales avec des lanières, mais elles pétaient tout le temps. Alors je me promenais, comme je marchais à pied dans Paris, je me promenais avec mes sandales à la main, et les gens disaient, qu'est-ce que c'est? Tranquillement, je descendais, je repassais par la place de la Madeleine avec mes... Je me rappelle très très bien avoir marché rue Royale avec mes savates à la main, et les gens se retournaient absolument effarés. Et je traversais le pont, et je retournais à Saint-Germain-des-Prés à pied avec mes sandales à la main.
C'était Juliette à la plage, quoi.
Ben, c'était Juliette à la ville. Et les gens prenaient ça pour une attitude, peut-être, pour une volonté. Or, ça n'en était pas une, sinon que ça ne me gênait en rien. Et que je n'avais aucun complexe de ce genre.
Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles. Et t'es galante, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon. T'es gigolo, t'es déshabillé sous le métro de la Bastille. Pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Dédé Lacroix, bébère d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames seront une raison à ce fond vigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Aldep savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copains, sinon t'es bon. Allez à la une, allez à la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Allez à la der, allez à la rien, t'es un gangster à la mi-pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, oh, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flonflon, t'as la manfaite et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, mais c'est si bon.
Avec la chanson de Léo Ferré, Paris Canaille, s'achève la première partie de La mémoire retrouvée de Juliette Gréco, un entretien qu'Ariel Buteau avait enregistré avec la chanteuse en 1999. À suivre demain la deuxième partie de cette émission. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont à retrouver sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Alexandre Billard à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.